Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant, la météo, le journal et une grève à la SNCF.
Oui, une grève d'ampleur, surtout dans les TER, avec 2 trains assurés sur 5 en moyenne au niveau national. Ce sera légèrement mieux pour les TGV, quoi qu'il en soit. Ce mouvement pourrait être le début d'un été galère dans les gares, car tout va se jouer aujourd'hui entre les syndicats et la direction de la SNCF. Réunion de négociations autour des salaires, et comme dans de nombreux secteurs, les cheminots réclament des augmentations pour contrer l'inflation. Mais est-ce que la compagnie ferroviaire est réellement en mesure de les accorder? Elle n'a certes jamais vendu autant de billets, mais elle traîne par ailleurs une dette de 26 milliards ainsi qu'une facture d'électricité qui est en train d'exploser. Bref, où trouver l'argent? Eh bien, on posera la question dans une dizaine de minutes à Fabien Villedieu de Sudrail, l'un des 3 syndicats qui appellent aujourd'hui à la grève. On écoutera ensuite Omblin votre partition.
Un film tout aussi iconique que sa bande originale. Et son parcours musical à travers 30 années de contre-culture américaine. Rendez-vous dans 20 minutes.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
La météo, Marlène Duret, le soleil reste généreux aujourd'hui.
Et oui, Julien, soleil à l'horizon du matin au soir. Alors, entre les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, des nuages bas ou plaques de grisaille sont observés par endroits, mais les belles éclaircies finiront par l'emporter. Et puis, des Landes à l'Hérault, en passant par le Midi Toulousain, le ciel se voile. Et même en se rapprochant des Pyrénées, nombreux sont les nuages en lien avec la météo espagnol. On a des averses orageuses toute la journée, avec quelques gouttes déjà dans le Roussillon. Les températures pour cet après-midi en hausse dans le nord-ouest, quasi stationnaires ailleurs. On peut en noter quelques-unes pour cet après-midi. 24 à Charleville-Mézières, Verdun et Amiens. 26 à Quimper et Saint-Étienne. À Colmar également, 26. 27 degrés à Châteauroux et Poitiers. 27 à Paris, 28 à Mâcon, 29 à Valence-Annecy. Et puis 29 à 35 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1. Soyez tous les bienvenus, nous sommes le mercredi 6 juillet. Il est 6h. C'est un danger que beaucoup de parents ignorent, les coups de soleil chez les enfants, un facteur de risque face au cancer. Dans un instant, on vous explique comment les protéger, car non, la crème solaire ne suffit pas. Le baptême du feu d'Elisabeth Borne, la première ministre face au Parlement aujourd'hui pour son discours de politique générale. La gauche dépose une motion de censure. Et puis la pénurie de papier bouscule les maisons d'édition. Dans ce secteur aussi, les prix flambent. Une menace pour la rentrée littéraire.
Europe Matin. Et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. J-1 avant les vacances scolaires. Alors peut-être pour vous de préparer la valise de vos enfants. Casquettes, lunettes, crème solaire, 3 indispensables face au danger des rayons. Les coups de soleil de l'enfance font les cancers de la peau adultes. Slogan choc de l'Institut National du Cancer qui lance cette semaine une campagne de prévention.
L'enfance est même la période la plus dangereuse vis-à-vis du soleil. Un risque que 8 parents sur 10 ignorent selon une étude BVA.
Et d'ailleurs au bord de la plage ou de la piscine, vous pensez sûrement bien faire. Eh bien avec Yasmina Katou, on va tordre le cou à certains préjugés en matière de protection.
Vous appliquez à votre enfant de la crème solaire indice 50 après chaque baignade et toutes les 2 heures. Vous pensez donc votre bambin protégé du soleil. Mais c'est loin d'être suffisant, explique Jean-Baptiste Méric. Il est oncologue et directeur du pôle santé publique et soins à l'Institut national du cancer.
La crème solaire, c'est un complément qui va venir en plus pour les zones du corps que l'on n'aura pas pu protéger autrement.
Jusqu'à la puberté, la peau est plus fine et le système pigmentaire est immature. Les coups de soleil sont donc plus fréquents. Mais les vacances sont là et l'envie de profiter à l'extérieur aussi. Alors voici quelques conseils du médecin pour protéger les enfants.
La règle, c'est on reste à l'ombre. Et si on ne peut pas rester à l'ombre, pour la petite fille de 2 ans, le maillot à fleurs qui mime celui de la maman, on va oublier. On va avoir un maillot couvrant, anti-UV, un chapeau à large bord, des lunettes de soleil et on va appliquer une crème solaire d'indice élevé sur les zones qui ne sont pas couvertes.
Ces gestes de protection doivent être appliqués même par temps couvert. Pour limiter tout risque de cancer, il est même recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans aux rayons UV.
Les cancers de la peau dont la forme la plus agressive, les mélanomes, ont été multipliés par 5 depuis les années 90. L'un des cancers en France avec la plus forte progression.
Prenez donc vos précautions avant de profiter de vos vacances d'été bien méritées, des congés que vous passerez peut-être d'ailleurs en Tunisie.
Et c'est là que nous partons ce matin sur Europe 1 et nous ne sommes pas les seuls. Les touristes reviennent peu à peu dans le pays déserté depuis les attentats de 2015 et la pandémie de Covid. Un retour confirmé par Thibaut Hu, notre envoyé spécial à Hammamet.
Chapeau de paille sur la tête, Anne-Sophie, une touriste française, trempe ses pieds dans la Méditerranée. Des problèmes de sécurité ou de Covid-19 en Tunisie, elle ne s'est posé aucune question pour profiter de la chaleur.
La dernière fois qu'on est parti, c'était en 2019. Ça remonte le moral ? C'est vraiment pour se reposer, pour ne rien faire, quoi.
Nabil, qui se promène dans le souk, lui est de retour. Français d'origine tunisienne, il n'était pas revenu depuis le début de la pandémie.
Ça fait 3 ans que j'ai pas bougé. J'avais peur d'être bloqué dans un pays. J'ai fini mes doses de vaccin et puis j'ai pris le bateau et je suis venu en Tunisie, quoi.
À quelques rues de là, devant la plage, l'hôtel Le Sultan affiche presque complet. Mehdi Alani, le directeur, fait 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'en 2021. Un soulagement après 2 longues années de galère.
2015, les attentats terroristes. 2020, Covid. Sur 11 ou 12 ans, je pense qu'on en est à 3 années plutôt normales. Là, ça fait énormément de bien. Enfin, ça redonne confiance.
Mais pour Issam Boussama, patron d'un restaurant sur le port, ce n'est pas suffisant. En haute saison, quelques tables sont toujours vides.
Les rues étaient pleines de touristes avant. En ce moment, il y en a, mais pas assez. On est dans l'attente.
En 2022, 170 000 touristes ont visité la région, un chiffre en hausse de 150% par rapport à l'année dernière. Mais il en faudra encore plus pour que la ville retrouve la fréquentation de ses années les plus fastes. À Hammamet, près de Tunis, Thibaut, Europe 1.
Et si vous êtes prêt à vous envoler pour la Tunisie, vérifiez bien votre vol. Depuis ce week-end, des dizaines de passagers de la compagnie Tunis Air sont bloqués à l'aéroport de Marseille après des annulations de vol.
Et il n'y a pas que les aéroports où ça coince. La grève SNCF risque de perturber votre trajet aujourd'hui.
2 TER sur 5 en circulation, 3 TGV sur 4 sur les axes Nord et Atlantique. Une mobilisation à l'appel des syndicats qui réclament une hausse des salaires calquée sur l'inflation. Une table ronde avec la direction est prévue à 9h.
Anticipez donc vos déplacements, surtout si vous êtes lycéen.
Oui, à cause du début des épreuves du rattrapage du bac ce matin et jusqu'à vendredi, cela concerne quand même près de 7% des candidats qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne.
6h05 sur Europe 1. Elle s'apprête à passer son grand oral. Elle, c'est Elisabeth Borne, la première ministre prononce aujourd'hui son discours de politique générale.
15h à l'Assemblée nationale et d'ici là, les députés de la NUPES déposeront une motion de censure contre le gouvernement. Alexandre Chauveau, cette défiance, c'est une réponse, on peut dire, directe à Elisabeth Borne qui refuse de se soumettre à un vote de confiance.
Oui, chose promise, chose due, la nouvelle Union populaire écologique et sociale veut faire, je cite, « venir de force la première ministre devant le Parlement ». Parole de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Alors les chances de réunir les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement sont extrêmement minces. Mais Jean-Luc Mélenchon, en conférence hier soir à Paris, en fait une question de démocratie.
Voter la censure, c'est voter que les Français en majorité n'ont pas voulu de ce gouvernement. Nous, on va voter non, on va voter la censure. Et vous ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit pendant l'élection que vous pouviez vous accommoder de M. Macron ? Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Parce que c'est ce que vous allez faire. Et maintenant le truc c'est, vous n'avez pas bloqué les institutions. Non, c'est eux qui les bloquent. Parce qu'ils bloquent la démocratie.
Alors le RN et les Républicains ont déjà indiqué qu'ils ne voteraient pas cette motion, ce qui pourrait paradoxalement renforcer la légitimité d'Elisabeth Borne. En cas d'échec, cette motion viendrait s'ajouter aux 57 autres qui ont échoué depuis la création de la 5e République. Une seule a été adoptée, c'était en 1962, contraignant Georges Pompidou à démissionner. Le général de Gaulle avait alors répliqué en dissolvant l'Assemblée.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et dans son discours de politique générale, Elisabeth Borne s'arrêtera forcément sur la priorité de son gouvernement, la priorité également de tous les Français. La bataille contre l'inflation.
Une hausse des prix qui touche tous les secteurs, y compris l'édition des livres pénalisés par les tarifs du papier. En cause, la crise sanitaire et plus récemment la guerre en Ukraine, à tel point que les éditeurs doivent faire des choix et cela pénalise la rentrée littéraire. Nicolas Caro.
Jusqu'à maintenant, il y avait des réserves de papier, mais la situation devient critique. Entre 30 et 50% d'augmentation. Chez les grands éditeurs, on peut faire face. Chez les petits indépendants, c'est plus dur. Dominique Borde, de la maison indépendante Toussaint L'Ouverture, payait 650 euros la tonne. C'est 950 euros maintenant, pour plusieurs raisons. Dominique Borde.
Il y a une très forte demande de papier autre que le papier pour l'édition. Il y a des papiers, par exemple, pour les posologies des médicaments, le papier de cartonnage pour l'envoi. Donc, il y a une inflation et puis qui n'a cessé de s'accroître ces derniers mois, plus la crise de l'énergie.
Et oui, c'est qu'une usine à papier, c'est un four, donc une débauche d'énergie, plus le coût du transport. Les solutions, il y en a peu. Augmenter le prix des livres, c'est compliqué, il faut se débrouiller autrement, Dominique Borde.
Moi, je reporte un livre qui a un très beau papier, mais je ne peux pas le faire en ce moment, parce que sinon il aurait un prix absurde, en espérant que la crise va passer. Et sinon, après, on peut baisser les grammages. Ça va baisser mécaniquement l'ensemble du poids qu'on va consommer, parce qu'on consomme à la tonne, et c'est comme ça qu'on calcule.
Et la plupart des éditeurs diminuent la voilure. À la rentrée littéraire fin août, 490 romans sortiront contre 521 l'année dernière.
Nicolas Caro.